Nous poursuivons avec nos sept églises. Nous avions vu l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame le dimanche dernier. Et puis aujourd'hui, nous sommes à la quatrième église qu'on veut voir, donc l'église de Thyatire. Et ici, c'est à peu près le parcours de ces églises-là qu'on essaie de voir, là où les lettres ont été envoyées. Donc, commençant par Éphèse, donc on suit bien l'itinéraire qui est bien tracé. Et parlant de l'église de Pergame que nous avions vue la dernière fois, nous avions parlé des éloges. Parce qu'on a dit qu'il y avait des éloges, il y avait des reproches, et pour certaines églises, il y avait des recommandations et des promesses. À l'église de Pergame, l'éloge qui a été faite à l'église, c'est qu'elle était fidèle. Malgré les persécutions, l'église était fidèle. Et parce qu'elle retenait le nom du Seigneur, et puis elle n'a pas renié la foi malgré les tribulations par lesquelles l'église pouvait passer. Cependant, le reproche qui a été fait à l'église, c'était les compromis. On trouvait dans l'église des gens qui étaient attachés à la doctrine de Balaam, des gens qui maintenaient effectivement la doctrine des Nicolaïtes. Donc, en plus de leur foi chrétienne, il y avait donc un compromis avec d'autres adorations. Et on a regardé un peu l'histoire de Balaam et Balak, comment est-ce que cela a été expliqué. Mais la référence a été faite effectivement à Balaam pour montrer effectivement que dans l'Église, il y avait des personnes qui étaient attachées à ce genre de pratique, soit par des compromis. Donc c'était un danger. La solution que je dirais que Dieu donne, que Jésus donnait, la solution que donne celui qui a l'épée à deux tranchants pour montrer son autorité, c'était la repentance. Donc seule la repentance était le remède face au compromis. Donc on s'est rendu compte effectivement que l'Église a été interpellée par rapport au compromis qui était fait. Alors quelle était l'attitude à adopter? Il fallait que l'Église effectivement puisse revenir au Seigneur par la repentance. Pourtant il y avait des éloges qui avaient été faits. Hein? Mais malgré ces éloges-là, quand même le Seigneur interpelle. Et l'avertissement, c'est que le jugement de l'Église, s'il n'y a pas de repentance, c'est-à-dire Dieu dans son amour, donne un moyen de solution, mais si on ne le suit pas, en ce moment-là vient son jugement. Et la récompense au vainqueur, c'était qu'il y avait la manne cachée, donc nourriture céleste et la vie éternelle, et un caillou blanc sur lequel un nom nouveau était écrit. Donc on avait dit que chacun recevrait un caillou blanc sur lequel un nom nouveau est écrit, et seule la personne et celui qui tient l'épée à double tranchant connaissent ce qui est écrit sur la pierre. Donc ça montrait effectivement que c'était un secret précieux. Alors fondamentalement, les quatre leçons qu'on pouvait retenir de cela, en plus des éloges autour dans lesquels on tire des leçons, c'était de montrer la souveraineté de Christ. C'est-à-dire, sa puissance et toute son autorité suprême. Donc il voit nos luttes, nos succès et l'influence du milieu où nous vivons, dans lequel nous vivons. Mais malgré l'environnement, Christ demeure souverain. Dieu demeure souverain. Le deuxième point, c'était l'exigence de la fidélité. C'est-à-dire être ferme, sans compromis, malgré les persécutions. Donc les persécutions viendront, il y aura des tribulations, mais ce que Dieu exige de nous en tant qu'enfants, en tant qu'Église, c'est qu'on puisse demeurer fidèle pour faire partie des vainqueurs. Et le troisième point, c'était la responsabilité de l'Église. C'est-à-dire, Christ exige une repentance collective. On a vu qu'il y avait un danger qui était le danger du compromis. Mais lorsqu'on se rend compte effectivement que ce compromis existe au niveau de l'Église, je dirais même ce péché existe au niveau de l'Église, ce que l'Église doit faire, c'est avoir une repentance, se tourner vers Dieu pour demander pardon et repartir à zéro avec lui. Et on a parlé donc de la promesse au vainqueur qui est une identité restaurée. Donc l'identité restaurée parce que Christ, bâtit une relation personnelle avec nous. Et par le caillou sur lequel ton nom est écrit, secret entre toi et Dieu. Donc en gros, c'est un peu ce qu'on a vu. Je ne sais pas si vous voulez ajouter des éléments par rapport à cela sur l'église de Pergame, si vous avez d'autres éléments que vous voulez juste compléter avant qu'on continue. C'est bon? Donc, aujourd'hui, nous voulons voir donc l'église de Thyatire. Donc, la ville de Thyatire, au fait, c'était une ville commerciale. Je voudrais avant de continuer quand même, rendre à César ce qu'il y a à César. Je veux dire, les images que j'ai ici m'ont été donc envoyées par Ronald afin qu'on puisse bonifier le coup. Donc, je voudrais préciser cela. C'est bon? Voilà, donc l'église de Thyatire, je dis l'église, la ville de Thyatire. Thyatire est une ville commerciale et industrielle plutôt que politique ou culturelle. Nous avions vu pour les villes précédentes que c'était des villes qui étaient politiques, il y avait des villes qui étaient culturelles, en tout cas, c'était de grandes belles villes. Éphèse, on en a parlé, Smyrne, on en a parlé, des villes qui étaient développées. Mais particulièrement, Thyatire, elle est commerciale, mais cependant, au niveau politique ou culturel, Thyatire n'a pas, je dirais, une grande envergure en tant que telle, une grande influence. Elle est située sur une route importante commerciale aussi entre Pergame et Sardes. Des sept églises que nous verrons, ou déjà des trois qu'on a vues et des trois autres qui viendront, Thyatire fait partie c'est la plus petite des villes. Okay? C'est elle qui reçoit l'oracle le plus long. Parce que quand on va voir quand même, elle est la plus petite, mais la lettre la plus longue a été adressée à Thyatire. Elle est moins importante, mais la lettre la plus longue a été adressée à Thyatire. Et au niveau asiatique, j'ai noté notamment les artisans étaient organisés en corporation. Donc, comme on l'a vu pour Éphèse, pour Smyrne, on a vu effectivement qu'en fonction des métiers, il y avait des corporations qui existaient. Et puis, l'influence de ces corporations-là était très grande. Donc, pour pouvoir avoir un développement, faut appartenir à ces corporations-là. Donc, les églises étaient confrontées à cela. Donc, pour pouvoir se développer, fallait appartenir à des corporations. Or, ces corporations aussi étaient adossées souvent à des dieux. Donc, voyez un peu, ces corporations étaient adossées à des dieux. Donc, pour celui qui ne veut pas s'adosser à ces corporations, on voit que son développement devient difficile. Donc, ça, c'était une difficulté à laquelle les églises étaient confrontées. Donc, pour pouvoir s'en sortir, des églises vont faire des compromis. On va dire, bon, ok, on va essayer de faire des adorations, c'est pas grave, on sait qu'on adore Dieu, mais on va l'adorer un Dieu païen, pourvu qu'on puisse bénéficier des avantages de la corporation. Donc, cela créait donc un piège, peut-être un danger pour les églises. Et aujourd'hui, la ville de Thyatire est connue aujourd'hui sous le nom de Akissar, toujours en Turquie. Au fur et à mesure qu'on regarde ces églises-là, ça donne la motivation d'aller visiter la Turquie et puis essayer de faire le parcours de ces églises-là. Et à Thyatire, il y avait peu de monuments spectaculaires et puis il n'y avait pas de grands temples, hein, comme les autres villes. Et la population était cosmopolite, c'est-à-dire plusieurs, on avait des. Il y avait le latin, il y avait le grec, il y avait les orientaux, des juifs, et puis en tout cas, beaucoup de communautés, effectivement, vivaient à Thyatire, surtout que c'était une ville commerciale aussi, où donc certaines communautés y allaient pour leur business, pour leurs affaires et tout. Et vu la grande diversité de la population, il y avait une tendance au syncrétisme. Donc le syncrétisme, j'ai noté, fusion des diverses doctrines pour former un culte. Au fait, c'est un mélange de la foi. Donc la foi chrétienne avec une autre pratique. Donc on envoie tout cela dans le culte pour adorer Dieu. Donc un mélange. Et souvent, bon, je ne sais pas, mais on va plus voir ça dans certaines communautés, je dirais africaines, on va voir le syncrétisme parce qu'il y a des adorations. Et quand les gens se convertissent, par exemple, il y a des éléments de ces adorations-là qu'ils veulent forcément introduire dans l'adoration de Dieu. Mais pendant qu'on dit qu'on sert Dieu aussi, on adore d'autres affaires à côté. On fait ce mélange-là. Donc, à Thyatire, on était confronté à ce genre de pratique aussi à Thyatire. Et on nous parle de Lydie, riche marchande de pourpre, convertie à Christ à Philippe en Macédoine. Elle est originaire de Thyatire. On dit que sa maison était un lieu de rassemblement de l'Église aussi. Donc, je vais juste lire ça pour qu'on puisse situer un peu. Acte 16. Le jour du sabbat, Nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Donc les femmes étaient réunies au bord de la rivière, c'est-à-dire certainement pour leurs adorations ou suite à leurs différentes activités ce jour du sabbat. Au verset 14, on nous dit « L'une d'entre elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Donc on voit Lydie, parce qu'à Thyatire, il faut noter que Thyatire était l'un des commerces favoris de Thyatire, c'était la pourpre, le commerce de pourpre. Donc ici, Lydie était commerçante, grande, elle était riche aussi, donc elle va recevoir le Seigneur. Donc quand on parle de Thyatire, quand on parle de Lydie, on pense à Thyatire, sa ville d'origine. Alors, il y a des commentateurs qui estiment qu'elle sera à l'origine de la création de l'église de Thyatire. Parce que pour eux, elle a reçu l'évangile, donc elle est repartie à Thyatire, elle a aidé à fonder l'église. Soit elle était fondatrice ou elle était un membre influent de cette église-là. Tandis qu'il y a d'autres aussi qui attribuent la création de l'église, pas à Lydie, mais plutôt au rayonnement de l'apôtre Paul, parce qu'il a fait 2 ans à Éphèse. Donc on nous dit que pendant qu'il était à Éphèse, il a pris le temps d'enseigner, de former. Donc ceux qu'il a formés ont pu bâtir, comme nous ici, on a nos églises filles. Donc on a pu bâtir d'autres églises au fur et à mesure. Donc on a ces deux tendances-là. Mais peu importe, le plus important, c'est que Thyatire a joué un rôle important au premier siècle dans la vie de l'Église. C'est bon? Donc j'ai mis les deux éléments pour que on puisse les considérer en tant que tels. Notre test aujourd'hui, c'est donc Apocalypse 2, 18 à 29. Une personne peut la lire, s'il vous plaît. Apocalypse 2, 18 à 29. Donc ici, on voit que le Fils de Dieu, il se présente. C'est-à-dire, le Seigneur se présente au verset 18 comme Fils de Dieu. Et lorsqu'on parcourt le livre d'Apocalypse, c'est la seule fois que ce titre apparaît dans le livre d'Apocalypse. Alors la question qui me vient, c'est pourquoi le rappel de ce titre à l'Église et puis qu'est-ce que cela évoque en nous? Parce qu'il se présente, il dit, « Écris à l'ange de l'Église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. » Mais simplement ce que dit le Fils de Dieu. Pourquoi se présente-t-il à l'église de Thyatire comme Fils de Dieu? On remarque qu'à chaque église, il a une présentation particulière. Mais à Thyatire, il dit, je viens vers vous comme Fils de Dieu. Je vous écris comme Fils de Dieu. Alors, pourquoi cette interpellation, selon vous? Je n'ai pas trop développé dessus. Hein. Je voulais juste qu'on prenne un peu. Quand Jésus nous dit, je viens à toi comme Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que cela crée en nous? Okay. Donc, un des éléments que notre frère dit, c'est qu'en disant à l'église de Thyatire qu'il est Fils de Dieu, il est en train de dire que je suis Dieu moi-même et que le jugement m'appartient. Donc, il dit, je suis le Fils de Dieu, donc par moi, vous êtes sauvés. Parce que son sang est versé pour nous, là. N'est-ce pas? Donc, c'est ce qu'il est en train de leur dire. Par moi, Thyatire, vous êtes sauvés. Deux autres interventions et puis on progresse là-dessus. Donc ici, il met l'accent sur le fait qu'il est attaché à eux, il les aime, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc il vient manifester aussi son amour pour eux. Oui. En plus, il a l'autorité, donc ça vient donner qu'il a l'autorité de parler. Il a l'autorité. On dit autrefois, Dieu parlait par des prophètes et dans les derniers temps, il parle par le Fils qui est le reflet de son image et tout. Donc, son autorité. Donc, on voit ici son autorité, on voit son amour, on voit sa puissance, on voit son jugement, on voit l'attachement qu'il a aussi pour nous. Donc, ça, c'était juste pour qu'on puisse avoir cela aussi à l'esprit. Parce que souvent, on va le dire, on va le penser, on va le dire, Jésus est Fils de Dieu, mais on ne réalise pas la portée qui vient avec. Donc je l'ai mis comme ça pour qu'on puisse y penser. Maintenant, par rapport aux caractéristiques de ce Fils de Dieu-là, que lui-même il dit, hein, il parle de celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Donc ici, les yeux comme une flamme de feu, c'est-à-dire rien ne lui échappe. C'est-à-dire ses regards sont sur son église, parce que c'est son église. Donc, il voit la conduite des membres de l'église de Thyatire. Et il sonde aussi les profondeurs des cœurs et les motivations lorsqu'on lit le verset 23. Il dit, je ferai mourir de mort ses enfants. Ça, c'est une bonne répétition. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Donc, ça vient montrer effectivement que rien ne lui échappe. Et puis, il est capable d'aller même aux motivations profondes du cœur des membres de l'église et de son église. Donc, voilà pourquoi il se présente comme celui qui a les yeux comme une flamme de feu. C'est-à-dire, on ne peut rien lui cacher. C'est-à-dire, il voit. Et deuxièmement, on dit que ses pieds sont semblables à du bronze. On va parler à du métal particulier aussi. Donc, il souligne ici son autorité et son puissant jugement. Donc, ça montre effectivement qu'il se présente comme fils de Dieu avec ces caractéristiques-là, parce que non seulement il a l'autorité et il a la capacité de juger, mais il ne va pas juger injustement. Ben, il juge parce qu'il voit, il connaît nos motivations, il connaît les motivations de l'Église. Il voit tout, on ne peut rien lui cacher de toutes les façons. Donc, voici, il se présente donc à ce titre-là comme fils de Dieu ayant ces caractéristiques-là. Et quelqu'un pourrait lire, je vais prendre Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Donc, avant la lecture, on voit dans Hébreu 4, 13, rien n'est caché devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc c'est à Dieu, à Jésus, donc qu'on va rendre compte. Et rien n'est caché devant lui. Ici, Philippiens 2, verset, c'est du verset 5 à 11. Hein. Donc enlevez le troisième, le troisième un qui a été mis. C'est bon? Parfait. Donc Jean 14, verset 15, celui qui l'a trouvé peut le lire. Oui? Amen. Donc si vous m'aimez, gardez mes commandement. Donc, avec l'autorité, la puissance qu'il envoie, mais il se présente comme fils de Dieu aussi, parce qu'il veut qu'on lui obéisse. Il veut qu'on garde ses commandements. Voici pourquoi il se présente aussi comme fils de Dieu. Dans Hébreux 1 à 4, où on nous parle effectivement que Dieu nous parle maintenant par le Fils. Hein? Le Fils qui reflète maintenant le Père. Et dans Philippiens 2, 5 à 11, où on nous parle de Jésus qui était égal à Dieu, mais qui n'a pas regardé à cela, mais qui vient comme un homme, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et à la fin, on nous dit, c'est pour cela que Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Et au nom de Jésus, donc tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, on voit effectivement que voici pourquoi il se présente comme fils de Dieu à l'endroit de cette église-là. Mais en même temps qu'il se présente avec toutes ces caractéristiques-là, c'est pour dire à l'église qu'il l'aime et qu'il est là pour prendre soin d'elle. Lorsqu'on voit le verset 19, au verset 19, on voit les éloges qui sont faits à cette église-là. Et il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Donc, quand on regarde, comment décrivons-nous cette église au regard des éloges qu'elle reçoit du Fils de Dieu? Là, ce n'est pas n'importe qui lui fait ces éloges, c'est le Fils de Dieu. Et comment est-ce qu'on pourrait décrire cette église-là? C'est-à-dire, au pif, là, quand on regarde ça, ce qui vous vient à l'esprit, c'est quoi pour vous, cette église-là? L'église, elle est parfaite. On est d'accord, hein? Quand on la regarde, l'église, elle est parfaite. Comment on pouvait décrire cette église? Moi, je dirais que c'est une église modèle. Hein? Elle est parfaite, c'est vraiment un modèle d'église. C'est-à-dire, quand on regarde ça, on veut ressembler à cette église-là. Moi, je suis pas à la lecture après. On est à la lecture maintenant. à la lecture, oui, vas-y. Elle n'a pas été stagnante. C'est ça. Donc, on voit que c'est une église qui vit, une église vivante, on va dire. Elle est fervente. Quand on regarde, parce que je regarde ça et puis je dis, mais elle avait certainement beaucoup d'activités, elle prenait soin. Quand on va parler de son amour, on va parler de sa foi, de sa fidélité dans son service, de sa constance. C'est-à-dire, elle ne demeurait pas, elle tombe pas, elle se relève. Non, non, elle est constante dans son engagement. Et puis, ses dernières œuvres, comme le dit la sœur, sont plus nombreuses que les premières. Donc, c'est une église qui bouge. Il y a de la vie dans cette église-là. Et on aurait dit, ah, mais on pourrait dire, mais l'Esprit de Dieu agit dans cette église. Et donc, une église vivante pour laquelle les œuvres parlent. Une église modèle et fervente. Une communauté qui va de progrès en progrès. Et puis, le Seigneur apprécie la ferveur, la consécration, le zèle des croyants de Thyatire. Donc, le Seigneur, il fait ses éloges, ça veut dire qu'il apporte une bonne appréciation, il aime ça par rapport à l'église de Thyatire. Mais vu que c'est lui qui a des yeux, je dirais, comme des flammes de feu, des yeux perçants, qui est capable de cerner les cœurs, de cerner les motivations, il ne va pas s'arrêter seulement aux éloges qui sont faites, mais il va faire ressortir l'interdit, je vais dire la situation qui, la plaie de cette église-là. C'est-à-dire, à vue d'œil, on voit une église vivante, mais il y a quelque chose dans cette église qui ne marche pas. Et c'est sur cela que le Seigneur va donc interpeller l'église de Thyatire au verset 20. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduit mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, de quoi s'agit-il? Donc, voici le reproche donc qui est fait à l'église de Thyatire. Il dit, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse. Il a souligné juste les deux mots là, pour qu'on puisse réfléchir là-dessus. Le premier mot, j'ai dit, c'est que tu laisses. C'est-à-dire, ici on le sait, mais on laisse la femme Jézabel faire ce qu'elle veut. Mais l'Église est pourtant vivante. Deuxièmement, on dit qu'il se dit prophétesse. Donc, si le Fils de Dieu qui dit la femme Jézabel qui se dit prophétesse, c'est-à-dire, c'est certainement une autoproclamation. C'est-à-dire, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui dit je mets cette dame-là de côté qui est prophétesse. C'est-à-dire, elle s'autoproclame. Et donc, quand on regarde ce reproche qui est fait à l'Église, selon nous, de quoi s'agit-il en gros? Dans ce reproche-là. Un compromis. Encore un compromis, un autre compromis qui vient ici à l'église de Thyatire. Et les éléments de ce compromis-là, c'est quoi? C'est quand on peut faire ressortir. On nous dit enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite. Donc, on dit se présentait, tantôt on a dit se présentait comme fils de Dieu, parce qu'il voudrait qu'on puisse lui obéir. Et ici, quand on voit les attitudes qui sont relevées, c'est qu'on voit effectivement qu'il y a une grande désobéissance qui s'établit dans la vie des membres de l'Église. Ou de certains membres de l'Église. Et pourtant, c'est une Église fervente. C'est une Église vivante. Une Église qui travaille pour le Seigneur. Et on peut mieux l'exploiter, on peut l'apprécier. On peut l'apprécier parce qu'il est... Effectivement, c'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure du jugement. Du jugement du Seigneur. Donc, le Seigneur fait ressortir ces éléments-là. Et puis, donc, comme on a dit, c'est un compromis. Il y a un compromis. Et le compromis serait lié à quoi? À l'idolâtrie. Parce qu'on nous dit ici dans le verset qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, il y a une partie des membres qui est engagée dans l'idolâtrie. Donc, on a l'inconduite. Dans certaines versions, on va parler d'impudicité. Et on a parlé, quand on a lu, on a parlé de l'adultère aussi. Pourquoi? Parce que... lorsqu'il y avait des fêtes à l'endroit des dieux, de ces idoles, des dieux païens, mais à la fin de ces fêtes-là, c'était l'ivrognerie. C'était la débauche qui était aussi encouragée. Donc, mais les chrétiens, pour pouvoir se développer dans la ville, dans la cité, vont donc s'engager dans ces compromis-là. Alors, s'engageant dans des compromis, certains, effectivement, vont dévier, auront de l'inconduite. Certains vont s'engager dans l'idolâtrie. Et donc, on va prendre des aspects de cette idolâtrie-là et puis on va vouloir les imposer donc, au niveau de l'Église. Donc, le problème de l'Église est en son sein. Les autres églises, on a vu qu'il y avait de la persécution, de la tribulation. Mais ici, à Thyatire, on nous dit qu'on n'a pas de grand temple de Dieu spécifiquement, quand même, bien que des poches peuvent exister, mais ce n'est vraiment pas un grand centre où des gens viendront en pèlerinage et tout cela. Donc l'Église était en paix, comme à Montréal, on est en paix. on essaie de caricaturer le pouvoir. Parce qu'on est là, on n'a pas de persécution en tant que tel. Mais le problème de Thyatire, c'est que son problème était à l'intérieur. Ce n'était pas le gouvernement qui prenait des lois, ce n'était pas des personnes qui venaient pour persécuter les chrétiens, mais c'était en son sein. Et puis la particularité, c'était l'enseignement. C'était l'enseignement. Donc, il y a un problème de discipline d'un enseignement qui était déviant. Parce que la femme Jézabel, effectivement, apportait un enseignement qui était déviant. Il y a un manque de surveillance et de vigilance concernant la doctrine. Parce qu'on dit « il laisse faire ». C'est ce qu'on a vu dans le verset. On dit « tu laisses la femme Jézabel ». Donc, c'était permissif. C'était permissif. Au début, quand j'ai écrit, j'ai mis « il y a un manque de surveillance et de vigilance concernant la doctrine ». Par les responsables de l'Église. Il a failli écrire par les anciens de l'Église. Après, vous comprenez? Donc, effectivement, c'est-à-dire, les responsables de l'Église ont la responsabilité de veiller sur l'enseignement qui est apporté. Mais pourquoi j'ai enlevé les responsables? Mais en plus des responsables, on nous dit qu'à Bérée, quand Paul parlait, quand les chrétiens parlaient, on dit que chaque chrétien prenait sa Bible et puis regardait pour voir si ce qu'on lui disait était vrai. Donc la responsabilité incombe à toute l'Église. Donc on est tous responsables de l'enseignement qui est donné à l'Église. C'est-à-dire, quel que soit le porteur de cet enseignement-là. Paul l'a dit, il dit, si quelqu'un d'autre vient vous annoncer un autre évangile, autre que ce qu'on vous l'a dit, il est anathème. Même si c'est un ange, c'est-à-dire même le porteur de la parole du Seigneur, quand il vient, quel que soit la parole qu'elle porte, on a la responsabilité en tant qu'Église. Premièrement, on va dire les responsables de l'Église, mais en tant qu'Église, on a la responsabilité de pouvoir interpeller. Parce qu'on a vu, on a vu des hommes de Dieu, de grands hommes de Dieu vénérés, aimés même, qui à la longue se sont éloignés de la vérité. Donc, ça, nul n'est à l'abri de l'égarement. Donc, il est important que nous, en tant que chrétiens, on puisse surveiller là-dessus pour nous interpeller. Et donc, la tolérance de faux enseignements donnés dans l'Église, le compromis avec la société, comme on l'a décrit tantôt, l'idolâtrie et puis la débauche. Donc, voici ces éléments-là que le Seigneur, avec ses yeux perçants et foudroyants, ses yeux de feu, voit de loin, que nous, on ne peut pas percevoir. Mais Dieu voit nos cœurs, il voit nos motivations, il voit chaque action qu'on pose. Tout à fait. Puisque la femme Jézabel, elle est influente. Hein? Donc, déjà, par son influence, déjà, elle impacte la vie des autres. Donc c'est important qu'on veille. Mais le seul verset m'a beaucoup fait réfléchir, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Parce que le premier élément qui était venu, j'ai dit, mais pourquoi il parle de la femme Jézabel? Donc, ça nous interpelle sur le rôle de la femme dans l'Église. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément sur lequel je réfléchissais, je me suis arrêté, j'ai dit, on va être trop long. On nous parle des viandes sacrifiées aux idoles. Hein? Mais quelque part, on nous dit que tout est sanctifié par la parole et la prière. Vous voyez, on fait le lien avec Naaman, qui va adorer après sa délivrance de sa lèpre. Mais il dit, ben, ok, permets quand je retourne, parce que le roi là, je suis tellement son bras droit que quand il rentre dans son adoration, je vais avec lui pour adorer. Donc, ça suscite plein de sujets en nous pour lesquels on peut discuter. Mais aujourd'hui, ce n'est pas là le débat. Parce que, vous comprenez, est-ce que la femme doit-elle prêcher ou pas? La femme de Jézabel, en tant que prophétesse, on nous dit qu'elle enseignait. Vous comprenez? Donc, c'est plusieurs petits aspects sur lesquels on pourrait avoir des sujets de discussion et tout cela. Oui, c'est ce dont on a parlé. C'est ça. On a dit qu'il y a un manque de discipline d'un enseignement déviant. Donc, ça veut dire la discipline est importante. Quand on parle de discipline, on ne voit pas la sanction. Hein? Quand on parle de discipline, on ne voit pas la sanction. Bon, ce sera une sanction. La discipline, c'est une sanction, mais une sanction positive. Quand on parle de discipline. Donc, ici, la discipline qui aurait pu être apportée, quand on voyait que la femme Jézabel était en train de dévier, c'était de l'interpeller afin que ce soit corrigé. Donc, c'est cela la discipline. Donc, c'est la démarche de la discipline. Donc, on va la voir, on va l'interpeller. C'est ça. Donc, comme j'amplifie un peu ce que le frère dit, en résumant, effectivement, il dit que c'est une tendance aujourd'hui où il y a des églises qui acceptent tout. Voilà. Et puis, parce qu'elles se disent libérales, donc elles vont tout accepter et puis on va progresser. Mais il y a un danger. Donc, c'est à peu près la même chose que vivait l'église de Thyatire. Mais ce qui est impressionnant, c'est que quand même, l'église de Thyatire est une église fervente. Elle est fervente. Donc, les conséquences, c'est-à-dire entraînent les chrétiens dans l'idolâtrie, engagent les chrétiens au sacrifice païen, et puis les serviteurs se livrent à l'impudicité. Et la référence à Jézabel nous rappelle donc la femme d'Akab. Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire 1 roi 16, 31? Une autre personne pourrait prendre 1 roi 21, à partir du verset 4 et le verset 7 à 10, s'il vous plaît, pour qu'on puisse cerner un peu, et puis 1 roi 18. Donc, on va voir au temps de ce que faisait Jézabel, pourquoi la référence est faite à Jézabel. Donc, 1 roi 16, verset 31. Celui qui le trouve le lit, hein, s'il vous plaît. Okay. Donc, ici, on voit que le roi Akab, il va prendre pour femme Jézabel. Mais le père de Jézabel, c'est un grand adorateur de Baal. Hein. Donc, du coup, quand il le fait, il va être corrompu par son épouse et il va commencer lui-même par porter de l'adoration à Baal, qui est de l'idolâtrie. Donc voici ce que faisait Jézabel dans l'Ancien Testament. Tu pourrais continuer ou quelqu'un d'autre, le chapitre 18, verset 19, toujours de 1 roi. Okay. Donc aussi on voit ici la femme Jézabel, ou la reine, ici c'était la reine, hein, la reine Jézabel, comment elle avait une grande influence parmi les enfants d'Israël. 450 prophètes de Baal, plus 400 prophètes d'Achérus. Donc des dieux étrangers. Or, c'est interdit aux enfants d'Israël d'adorer d'autres dieux. Mais là, ils viennent manger à la table du roi. Donc on voit la déviance totale. Et puis, quelqu'un pourrait nous lire le chapitre 21. Donc on voit l'autorité de Jézabel. C'est-à-dire qu'elle avait tout un pouvoir sur le roi. Donc, c'est elle. Donc, ici, le rôle néfaste de Jézabel, en nous référant à l'Ancien Testament, c'est qu'elle a entraîné Israël dans l'idolâtrie. Elle a pris autorité sur le roi Akab, utilisant le sceau royal pour commettre un meurtre. Elle se donne une apparence de piété pour camoufler son meurtre. Donc, ici, on voit le rôle de Jézabel sur la vie d'Israël. Donc, l'impact de Jézabel. Donc, elle prend autorité sur le roi, autorité dans la cité, pour pouvoir prendre des décisions qui n'honorent pas Dieu. Et on compare donc l'église de Thyatire, la femme Jézabel de Thyatire à cette Jézabel-là. Donc on voit comment Jézabel de Thyatire a pris autorité sur l'église pour pouvoir conduire l'église. Ici, la patience de Dieu à l'égard de l'église de Thyatire, quand même, lorsqu'on lit les versets 21 à 23, on va voir cette patience de Dieu quand même. On nous dit... Il dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je vous rendrai à chacun selon son œuvre. Donc, il avertit l'Église de la situation et il annonce le jugement. Dieu prouve, du moins propose la voie de la repentance. L'interpellation concerne toute l'Église. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement l'Église de Thyatire qui est interpellée par cette lettre, mais c'est toutes les Églises qui sont interpellées par cette lettre afin qu'elles puissent faire attention. Et on voit que Dieu encourage aussi les fidèles à rester fermes. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y avait cette déviance-là au niveau de l'Église pour certains, mais certains sont demeurés fidèles. Alors, Dieu les encourage effectivement à rester fermes dans leur marche avec lui. Et il dit, ils ne suivent pas les fausses doctrines, et puis Jésus n'impose pas d'autres charges. Parce qu'il dit qu'il n'impose pas d'autres charges à ses frères-là. Au verset 25, il dit « Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. » Donc, il ne veut pas leur imposer d'autres charges. Alors, comment agir face à une telle situation dans l'Église? Tantôt, il y a le frère qui parlait de la discipline. En effet, comme on dit, donc, s'il y a une telle déviance dans l'Église, quelle est la démarche qu'on va faire? Ne pas prendre part à ses œuvres, donc aux œuvres de Jézabel, aux œuvres qui nous dévient. Deuxièmement, il faut pouvoir dénoncer ces œuvres-là, parce que si on ne les dénonce pas, elles vont continuer de prospérer. Donc, c'est important de pouvoir les dénoncer et puis exercer une juste discipline dans l'Église. Et quatrièmement, j'ai dit sortir du milieu d'elle selon Apocalypse 18, 4 à 5. Matthieu 18, 5 à 20 nous donne la démarche lorsqu'on va voir effectivement qu'il y a une déviance ou une déviation qui est en train de se faire. En ce moment-là, selon Matthieu 18, approche le frère, parle-lui. Deuxièmement, s'il ne t'écoute pas, prends une autre personne. S'il ne vous écoute pas, on l'annonce à l'Église. Et pendant tout ce processus-là, c'est la prière qui accompagne. Hein. Pendant tout ce processus-là, maintenant, si la personne ne veut pas écouter l'Église, en ce moment-là, on considère la personne comme un païen. Donc, Matthieu 18 va nous donner cette démarche-là. Éphésiens 5, verset 11, va nous encourager à ne pas prendre part aux œuvres infructueuses du diable, mais de les dénoncer. Mais un faux enseignement, c'est une œuvre infructueuse du diable. Parce que c'est subtil pour nous détourner, mais quand on se détourne, c'est vers le diable qu'on va. C'est-à-dire, on se détourne de la voie de Dieu pour aller vers la voie du diable. Et puis, 2 Corinthiens 5, 17 et Apocalypse vont nous encourager effectivement à sortir du milieu d'elle. Si c'est toute l'Église, si c'est toute la tête de l'Église, qui est, je dirais en griffe là, qui est pourri, mais ça veut dire que ce n'est plus une église. Donc ici, on voit la miséricorde de Dieu. Hein. On dit la patience de Dieu à l'égard de l'église de Thyatire. Mais pourquoi il le fait? Cette patience-là est manifestée parce qu'il interpelle. Donc c'est la démarche qu'on a mise. Il avertit l'église de la situation. Il aurait pu ne pas regarder. Il a les yeux qui voient partout, il sait tout. Il aurait pu s'asseoir et puis regarder, mais il voit son église qui est fervente, dynamique, des gens qui l'aiment, qui sont engagés. Mais il y a une plaie au milieu. Donc, il va appeler l'Église pour dire, au milieu de vous, il y a une plaie. Voici la démarche à faire pour que cette plaie-là soit enlevée. Il dit, mais j'ai donné l'opportunité à la femme Jézabel de se repentir. Mais elle ne veut pas se repentir. Donc, vu qu'elle ne veut pas, en ce moment-là, mon jugement arrive. Voilà pourquoi il s'est présenté comme fils de Dieu. Donc, effectivement, comme tu le dis, on voit sa miséricorde à ce niveau-là qui est manifeste. Après, on parle des récompenses du verset 26 à 29. On nous dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc les vainqueurs sont ceux qui persévèrent dans l'enseignement des apôtres, en étant fidèles jusqu'à la fin. Donc il dit à celui qui vaincra. Donc le vainqueur, c'est ça, celui qui va demeurer relié au test, à l'enseignement des apôtres, celui qui va garder la parole de Dieu. La récompense est attachée aux œuvres du Seigneur. Hein. C'est-à-dire, la récompense qui va venir, c'est par rapport aux œuvres que le Seigneur met dans leur cœur. Elle est attachée à cela. Parce qu'il a dit, je connais tes œuvres, dès le premier passage, au verset 19. Donc, les œuvres sont connues. Mais ces œuvres que les chrétiens de Thyatire ont manifestées, mais ce sont les œuvres du Seigneur que les chrétiens de Thyatire ont manifestées. Et puis, les bonnes œuvres du chrétien sont inspirées par Dieu. La première promesse qu'il fait ici, il dit, il donnera au vainqueur une autorité sur les nations. Et puis c'est clair, il dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Donc ici, ceux-là vont diriger, dirigeront les peuples avec un sceptre de fer. Il sera associé au règne du Christ, le Messie. Donc c'est par délégation, donc, effectivement, qu'on va dire, on aura donc autorité sur les nations. Et la deuxième promesse qui est faite, il dit, il donnera au vainqueur l'étoile du matin. On nous dit que Jésus est l'étoile brillante du matin. Donc, ils bénéficieront de l'éclat de Christ. Hein. Donc, c'est Christ qui réjaillit, c'est l'éclat de Jésus qui réjaillit, effectivement, sur eux, et ils participeront donc à la gloire de Christ. Mais à ces vainqueurs-là, auxquels ils s'adressent, mais c'est les vainqueurs de l'église de Thyatire. Donc, pour dire, effectivement, on voit comment la grâce de Dieu peut se manifester dans la vie d'un chrétien, d'une église en tant que telle. Oui. Mais le vainqueur... Mais le vainqueur, c'est celui, le vainqueur, c'est celui qui va persévérer jusqu'au bout. Mais dans la persévérance, là, il peut avoir des chutes. On peut tomber. On va se relever, mais on persévère jusqu'à la fin. Donc, c'est ça qui fait qu'on est chrétien. Hein? Parce que si on n'est pas capable de se repentir de nos péchés, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Mais Dieu nous interpelle, on va revenir. On va demander pardon et puis on va repartir à zéro avec lui. Et c'est lui qui nous rend vainqueurs. On dit qu'on est fortifié parce qu'on est vainqueur. On est plus que vainqueur. C'est Dieu qui nous fortifie. Hein? C'est comme 1 Jean 2, verset 1. Il dit, petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez point. Donc l'objectif, pas de péché. Mais il dit, si quelqu'un parmi vous a péché, vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc, vous voyez, on voit la grâce, la miséricorde de Dieu. Mais notre avocat, quand il a défendu notre cause, qu'on est revenu auprès de lui, mais on est vainqueur. On n'est pas vainqueur parce qu'on ne pêche pas. On est vainqueur parce que la grâce de Dieu nous accompagne. On est vainqueur parce que quand on tombe, Dieu nous relève. C'est lui qui nous rend vainqueur. Sinon, qui peut résister au diable? Mais on est vainqueur parce que c'est Dieu qui donne la victoire. Amen. Donc, le vainqueur, c'est lui. J'avance un peu, hein, à cause de ce que... Donc, la promesse, c'est ça. Et puis, le message à l'église de Thyatire nous rappelle l'importance de la sainteté pour chaque chrétien et pour chaque église. Et l'église doit se méfier du danger des compromis et des discours séduisants qui poussent les chrétiens à se conformer au monde. Soyons vigilants et puis et ayons le discernement car le danger peut venir de l'intérieur pour égarer les membres. Et demeurons fermes dans la foi que nous professons, comme nous dit Hébreux 4, verset 12. Alors Jésus-Christ, le Fils de Dieu, veille sur son Église. Rien ne lui est caché. Donc gardons ses commandements, c'est ce qu'il désire. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les œuvres de l'Église témoignent de la foi de l'Église, c'est-à-dire en fonction des œuvres. Parce que les chrétiens de Thyatire, on a vu l'éloge qui leur a été fait. Mais en faisant ces éloges-là, l'éloge vient témoigner de leur foi, de leur désir, de leur attachement au Seigneur, de leur désir de marcher avec le Seigneur. Donc, nos œuvres, les œuvres d'une Église, effectivement, vont témoigner de leur foi. On dit, montre-moi tes œuvres, je te montrerai ma foi. Après, veillons à ce que les discours séduisants soient cernés et rejetés, peu importe celui qui les porte. C'est-à-dire, quelle que soit l'autorité de celui qui va porter un discours séduisant, on a la responsabilité de pouvoir dénoncer ce discours-là. Et puis, les vainqueurs régneront avec Christ. Le Seigneur nous invite donc à vivre dans la sainteté, dans ce monde, car sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Et pour finir, le verset de Romains 12, verset 1, qui dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, prions que Dieu nous aide à pouvoir être attaché effectivement à sa parole et puis à lui obéir. Simplement, c'est ce que je vais dire comme conclusion. Amen. Okay. Donc, je vais demander à une personne de prier et puis de faire. Dominique, pourrais-tu prier pour nous?